Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et la nuit de dimanche à lundi à minuit. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Samedi 18 novembre à Rivière, au sud d'Arras, c'est la 10e fête de la pomme et du verger. De 14h à 19h à la salle du bas de Rivière, à la mairie, cette fête est organisée par l'association Rivière Nature et Patrimoine. Au programme, vous y trouverez des conseils sur les plantations de variétés locales de fruitiers, la possibilité de commandes groupées avec l'opération « Plantons le décor », des inscriptions à la démonstration de greffage de mars 2018, un échange de graines locales potagères, courges, haricots, princesses, tomates, herbes aromatiques, le parrainage d'un arbre pour le climat, la brasserie paysanne de l'Artois. Mathieu vous explique son magnifique projet et son parcours qui lui permet aujourd'hui de produire l'épinette, une bière bio à Gavrel à partir de son propre malt. Le verger bio de Souastre, Rémi vient avec des pommes de sa production. L'association Au Secours 62 qui nous parle de l'eau dans notre bassin versant. La paysanne boulangère Marie-Paul de Courcelles, le comte, vient avec ses pains bio au levain naturel cuit au feu de bois. Les amis de la Confédération paysanne, l'antenne locale de l'association qui vous présente ses actions. Mais aussi, durant toute l'après-midi, buvette, jus de pomme, bière, cidre et tarte aux pommes, panier garni à gagner et démonstration du pressoir à pommes. C'est donc le programme de la 10e fête de la pomme et du verger de 14h à 19h le samedi 18 novembre à Rivière. Alors le dimanche 19 novembre, c'est de l'initiative Bassin Minier Terre d'Accueil qu'il s'agit, dans le cadre du Festival des Solidarités de Migrants Seine 2017, avec Artisans du Monde de la Goëlle, le collectif d'associations de la Goëlle pour la Solidarité Internationale, la CIMA de Lanciévin et France Terre d'Asile. L'objectif de cette initiative Bassin Minier Terre d'Accueil est de mieux faire connaître sens des jeunes mineurs migrants isolés de France Terre d'Asile à Liévin et de la problématique des migrations sur notre territoire. Les organisateurs nous proposent pour l'occasion un repas du monde organisé et préparé par les jeunes mineurs étrangers de France Terre d'Asile de Liévin à prix libre, une exposition partageant nos cultures créée par les participants élèves du collège Jean Zé de Lens, le comité des sages de Lens et la photographe Eiter Toussaint. Deux mini-films de la CIMAD, Migrants mi-hommes de Julien Goetz, Sylvain Lapois, Henri Poulain, et le film Souris, qui signifie Syrien, de Christophe Switzer. Il y aura également des interventions de la CIMAD et du directeur de France Terre d'Asile de Liévin, et des prises de parole de jeunes migrants isolés qui parleront de leur parcours de migration, suivi bien entendu d'un débat avec les personnes présentes dans la salle. Il est conseillé de réserver son repas à repasdumondedeliévin@gmail.com de façon à ce que les organisateurs puissent anticiper le nombre de participantes et de participants. Voilà, une participation aux frais de 5 euros par adulte et 1 euro par enfant sera demandée pour l'ensemble de cet après-midi. C'est donc le dimanche 19 novembre à Liévin, dans le cadre du Festival des Solidarités. Mardi 21 novembre, au Métaphone à Oigny, c'est à du théâtre musical que nous sommes conviés avec la pièce Liebmann Renega à 20h. Monsieur Liebmann est un juif, mais un juif un peu spécial, un renégat à la solde des Arabes, disent certains. Issu d'une famille juive conservatrice et austère, Marcel finit par s'affranchir de cette droite dans laquelle il ne se reconnaît pas, au contact de la famille de sa femme, des juifs de gauche. Devenu un brillant intellectuel, professeur de renom, militant marxiste prêt à toutes les révolutions, il est solidaire d'un peuple palestinien dessaisi de ses terres. Dans la pièce « Liebmann Renega », l'auteur nous interpelle avec audace, humour et délicatesse sur ces thèmes et questions qui ont forgé son parcours à travers un récit hors du commun. C'est donc le mardi 21 novembre à 20h à Oigny au Métaphone, à voir en famille dès 13h. Les tarifs, c'est 13 € sur place au guichet, 13 € pardon, sur place au guichet, 10 € en pré-vente, 7 € tarif réduit et 5 € pour les enfants de 12 ans. Pour réserver, vous pouvez le faire par téléphone au 03 21 08 08 00 ou alors accéder à la billetterie en ligne à l'adresse http://www.9-9bis.com. www.9-9bis.com. Le mercredi 22 novembre à 19h, nous sommes invités à Ronnie Cooter à Grenay à une soirée projection débat musique dans le cadre du Festival Palestine. Le film projeté est La case prison de Franck Salomé. C'est un documentaire né de rencontres avec des familles de prisonniers en lien avec des associations françaises, palestiniennes et israéliennes de défense des droits de l'homme. Il y a actuellement environ 6500 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. À travers des interviews d'anciens détenus et de leurs familles, ainsi que de juristes palestiniens, israéliens et internationaux et d'anciens soldats mobilisés, ce documentaire met en lumière les mécanismes d'un système d'oppression qui dépasse les murs de la prison et maintient toute une société sous la menace permanente d'un emprisonnement arbitraire. Cette projection sera suivie d'un débat organisé par le collectif de soutien à la résistance palestinienne et l'association Amitié Lille-Naplouse. La soirée se terminera par un concert avec l'ensemble Tamadzouj. Tamadzouj signifie en arabe littéraire « mélange d'ingrédients ». Et comme tout bon plat de cuisine, l'identité du groupe Tamadzouj a mijoté quelques temps avant de s'affirmer et de livrer toutes ses saveurs. celle d'une rencontre musicale, fruit d'un harmonieux métissage de musique arabe et de jazz. C'est donc le mercredi 22 novembre à 19h, à Ronnie Cooter à Grenay. Au niveau des tarifs, eh bien, ce sera une participation à prix libre au profit du collectif. Le jeudi 23 novembre de 18h à 20h30 à la salle des fêtes de Angres, soirée contre les violences faites aux femmes. C'est organisé par 4 associations, Amnesty International, le CIDFF, le Planning Familial, Solfa Brunehaut et Vestali, 5 associations en fait. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre. Donc cette soirée permettra d'assister à une présentation de la thématique par le CIDFF, une lecture de texte sélectionné par Amnesty International et mise en bouche par la compagnie du Ficus de l'Amicale Laïque de Givenchy en Gohelle. Un défilé de l'émancipation par l'association Vestali, un ciné-débat animé par Solfa à partir du film documentaire Fred et Marie, et durant toute la soirée, un relais de messages grâce aux porteurs de parole du planning familial. Entrée libre et gratuite. C'est donc le jeudi 23 novembre de 18h à 20h30 à la salle des fêtes de Angres. Le vendredi 24 novembre, concert au Lag à partir de 20h30. Le Lag, le lieu autogéré de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Deux groupes lors de cette soirée concert. Tout d'abord White Moss, à la croisée de l'indie et du classic rock US. Le groupe interprète ses compositions en proposant également quelques reprises, avec la présence des guitares, une sensibilité acoustique, sans oublier un penchant pour l'expérimentation caractérisant leur spectre musical. Puis, dans un deuxième temps, le groupe Spoonman, ancien habitué du hard rock et du stoner, Spoonman se dirige vers la guitare depuis 2015. Très influencé, il crée son propre accordage et entonne des mélodies apaisantes qui feront voyager même les cœurs les plus durs. C'est donc le vendredi 24 septembre à 20h30 au Lag, vendredi 24 novembre, pardon, à 20h30 au Lag, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, avec White Moss et Spoonman. Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir, ou plutôt redécouvrir, le groupe Bruit qui court. La semaine dernière, nous avions diffusé une nouvelle édition de « Elle est libre, ma playlist », dans laquelle nous avons programmé un titre de ce groupe Bruit qui court. Vous avez été quelques-unes et quelques-uns à nous demander des informations sur ce groupe et également à nous demander de diffuser d'autres morceaux de leur composition. C'est pourquoi nous y revenons aujourd'hui. Bruit qui court, c'est donc du rap et leur album « Que la nuit m'emporte » a été enregistré à Toulouse. 10 titres avec un fil rouge, la nuit. Ses errances, ses combats, sa clandestinité. Un son brut, basse, batterie, clavier, trombone. Des textes en français, scandés. La volonté tout au long de cet album de frapper fort, de heurter, d'imposer les mots, le son et l'envie d'en découdre. Une poésie de combat au service d'un son rock, libre et à l'écoute de l'effervescence de la nouvelle scène indépendante. Bruit qui court est un groupe libertaire qui prône l'insoumission et le réveil des consciences. On est forcément secoué par les textes scandés, vociférés, dont la puissance a à voir avec une ponctuation musicale riche et bien dosée. Nous allons en écouter deux morceaux consécutivement. Tout d'abord, « Que la nuit m'emporte », qui a donné son nom à l'album, puis « Violence légitime ».
Attendre que la nuit m'emporte, qu'elle vienne me chercher, qu'elle me force à lâcher prise, qu'elle me force à oublier. attendre que la nuit m'étreigne, qu'elle apaise les coups, qu'elle apaise les blessures, qu'elle apaise les copains et ces sourires que l'on fait pour ne pas abandonner. Attendre que la nuit révèle le meilleur de ce que nous sommes. Attendre qu'elle nous soigne pour de bon. Attendre que la nuit m'emporte, qu'elle vienne me chercher, qu'elle me force, que tous ces vers nous guérissent et que toutes ces cigarettes emportent dans leur fumée nos erreurs et nos peurs. Que cette nuit fasse taire les porcs qui hurlent à nos oreilles que nous ne valons rien. Que cette nuit nous offre un petit peu de courage, un petit peu de dignité et nous rappelle que le jour est le pire des menteurs, que le jour est le pire des salauds, que le jour n'a jamais rien gagné, non. Que le jour n'a jamais rien gagné. Que cette nuit m'emporte. Que cette nuit m'emporte. Que cette nuit m'emporte. Il restera quoi? Il restera qui? Il restera quoi de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'ils nous ont jeté à la gueule et vendu comme progrès? Au final, qu'est-ce qu'ils diront de nous? Pour qu'on va passer? Pour une génération qui a su être? Pour une bande de pans à rien qui n'a pas vu le monstre naître? Qui n'a pas vu le drame se construire petit à petit sous ses yeux à découvert? Qui n'a pas su trouver le courage pour construire une violence collective? Une violence réfléchie hors la loi? Une violence d'idées et de combat? Imaginez la violence comme n'acceptant plus l'inacceptable, comme n'acceptant plus les traîtres et les cadres imposés par ces traîtres. Ne plus accepter l'inertie, chercher le mouvement par le chaos, par l'explosion populaire et révolutionnaire, par le soulèvement de ceux qui ne supportent plus de voir ce mur arriver et de ne rien faire si ce n'est fermer les yeux. De ne rien faire si ce n'est fermer les yeux. Au final, il restera quoi? Il restera quoi de nos luttes incessantes? Il restera quoi de ces heures à marcher dans le vide et le silence, sous le regard amusé de ceux qui ont abandonné? Il restera quoi de ces discussions sans fin, à essayer de mettre du sens là où il n'y en a plus? Il restera quoi de ces célébrations républicaines, de ces votes obscènes? Il restera quoi de nos morts, de nos sœurs, de nos frères, abattus et oubliés? Je suis désolé. Il y a des violences parfaitement légitimes. Parfaitement légitime. Parfaitement légitime. Parfaitement légitime.
C'est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Aujourd'hui, nous revenons sur quelques actualités qui se sont déroulées la semaine dernière. Tout d'abord, une assemblée des collectifs anti-Linky du Pas-de-Calais. Cette assemblée s'est tenue dans la salle des fêtes de Angres. Il s'agissait de préparer une mobilisation des habitantes et habitants à l'occasion de la tenue du conseil d'agglomération de Lens-Liévin à la cale. Plus de 200 personnes étaient rassemblées, Micro Rebelle y était et a tendu son micro à quelques participants. Il y avait notamment, au sein de ces collectifs, un ingénieur électricien et un avocat du barreau de Béthune.
Oui, bah écoutez, ce qui me motive, c'est simple, c'est déjà la santé de mes concitoyens en tant qu'élu, c'est ma santé moi-même et celle des enfants. Et puis, bah, c'est une aberration quelque part parce qu'en fin de compte, on est mis devant le fait accompli. On nous dit c'est obligatoire alors que c'est faux quelque part, mais la plupart des gens, moi je le vois avec mes beaux-parents, etc., tous ceux qui m'entourent, ils reçoivent aucune information, signez-la, et puis voilà, point barre. Donc ça, il y a une injustice complète. Et ça me fait penser, quand on a eu le tout électrique avec les grippins à l'époque, vous construisiez, vous êtes obligé de mettre de l'électricité parce qu'il y avait les centrales nucléaires. Et on revient en arrière. on revient devant le même problème, hein, avec tout ce qu'on nous cache derrière et tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc méfiance, et puis on joue la précaution, on va dire. Hein, mais il faut que les élus, et il y en a, heureusement, qui... ils font déjà quelque chose, ils l'ont fait déjà il y a 2 ans avec les Gaspers et qui veulent continuer, mais d'où ma présence pour les réunions publiques et informer les gens un peu plus en amont.
Oui, les compteurs Linky posent de nombreux problèmes juridiques, notamment des problèmes de gestion des données personnelles et des problèmes également d'appréciation de l'impact sur la santé des phénomènes magnétiques qui se produisent. Et donc il est nécessaire d'y voir plus clair dans la réglementation et notamment de demander à Enedis de faire toute la lumière sur notamment l'impact de ces compteurs sur la santé, puisque effectivement, et on parlait du cas particulier des gens avec un pacemaker par exemple, où l'émission d'ondes magnétiques entraîne des désordres de fonctionnement et pourrait impacter gravement la santé. Voilà un peu les éléments qu'on peut développer, sans compter également sur l'aspect plus particulier des conditions générales et du contrat qui lie les parties, les consommateurs et l'EDF de l'autre.
Alors, dans cette affaire du compteur Linky, ce qui est le plus étonnant, c'est de voir le refus complet des gens d'Enedis de nous donner les informations techniques relatives à cet appareil. Donc, heureusement qu'on a des appareils de mesure quelquefois, qu'on peut aller voir chez les gens, qu'on peut faire des comparaisons entre le compteur bleu et le compteur Linky pour voir les différences. Mais il n'y a pas encore assez de recul, vraiment, pour qu'on puisse statuer complètement. Pour l'instant, ce sont des cas, on n'a que des cas isolés qui se sont produits, par exemple, pour raisons de santé chez des gens qui ont des pacemakers, sur des gens qui ne peuvent plus dormir, les gens électrosensibles. Et puis, bien sûr, il y a le problème de la surconsommation. Et ça, le problème de surconsommation est réel, ça on pourra le mesurer.
Nous poursuivons notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM99.9. Nous sommes maintenant au centre Ronnie Couteur de Grenay à l'occasion d'un ciné-sandwich consacré à la révolution d'octobre 1917 en Russie. Après la projection du film Octobre de Eisenstein, le débat s'est engagé dans la salle avec l'éclairage de Louisette Faregno, maître de conférence à la faculté de filmologie à l'université Lille 3. Nous l'avons interrogée après ce riche débat.
Alors à propos du film d'octobre, tu as évoqué le cinéma prolétarien, Louisette. Est-ce que tu peux en donner quelques mots, quelques définitions, une approche ?
Oui, alors donc le cinéma prolétarien, c'est un cinéma qui est apparu donc dans la foulée du cinéma russe. C'est un cinéma qui se veut un cinéma au service de la classe ouvrière et qui se veut donc un outil qui permet d'analyser les contradictions de classe à l'intérieur d'un pays ou bien d'analyser un événement lié à une lutte sociale. Alors je vais prendre quelques exemples. En Allemagne, c'est le cas du film de Brecht, Ventre glacé. C'est un film qui analyse, en fait, à travers des personnages, la situation du chômage en Allemagne et qui donne à voir les propositions que fait à l'époque la gauche allemande et les syndicats et la KPD allemande. En France, ça a été lié au groupe Octobre et... au groupe Octobre et à Prévert, donc, et tout le groupe qui s'était constitué autour de lui, qui a monté des petits spectacles d'agitation propagande qui jouaient sur les marchés et qui interrogeaient des faits de société. Et Renoir a participé un peu à ce courant avec La vie est à nous, le film de commande du Parti communiste pour la campagne du Front populaire. Mais ça a essaimé aussi en Belgique. En Belgique, c'était Joris Stevens et Henri Storck avec Borinage, donc avec une volonté d'analyser ce que c'est qu'une grève, une grève perdue en plus, comment on peut en faire un outil positif, quoi. Voilà. Donc ça a été un grand débat dans les années à partir de 25 pour savoir si on pouvait faire vivre un cinéma de ce type dans les pays capitalistes.
C'est un peu l'équivalent de la littérature prolétarienne, de Poulaille, de Ragon.
Oui, exactement. Il y a eu le même courant dans le théâtre, dans la littérature et dans la musique. Ouais, ouais.
Alors dans le débat qui a suivi le film Octobre, là, moi personnellement, j'ai découvert le ciné-train. Est-ce que tu peux m'éclairer et éclairer nos auditrices et nos auditeurs?
D'accord. Alors, en fait, c'est un train qui était équipé avec du matériel permettant de fabriquer un film.
Donc, on est en Russie, hein?
Oui, on est en Russie. Donc, il y avait, en fait, comme il y avait un train de propagande du parti bolchevique pour préparer la révolution, après, il y a eu donc un ciné-train dont l'animateur et le maître d'œuvre étaient un réalisateur qui s'appelle Medvedkin et qui a fait un très beau film comique, c'était le Chaplin russe, disait Eisenstein, un film qui s'appelle Le Bonheur. Alors le ciné-train, c'était un train qui était équipé avec tout, dans les wagons, avec tout le matériel pour faire un film. Il y avait un laboratoire, il y avait du matériel de tournage, il y avait une salle de montage, et il y avait même du matériel de projection. Et alors ça permettait d'aller filmer à un endroit une expérience qui se menait, par exemple dans une usine, pour améliorer la situation, et d'aller le projeter très rapidement à des kilomètres de là. Donc c'était particulièrement adapté à un pays de grande distance et avec la volonté d'aider à la transformation du pays en faisant circuler de nouvelles expériences. Alors ils utilisaient tout, même le dessin animé. Alors il y avait un petit personnage qui était le chameau de remontrance qui sanctionnait ceux qui n'aidaient pas au développement de la production et l'amélioration des conditions de travail.
Voilà. Bien, je te remercie. Alors, peut-être une dernière question. Hein, dans Octobre, hein, de Sergei Mikhailovitch Eisenstein, c'est un film très, très dense, hein, un montage très, très moderne finalement, hein, des plans absolument magnifiques. Alors, d'un point de vue formel, dans un premier temps, et puis aussi d'un point de vue contenu, qu'est-ce que ce film il a à nous apprendre aujourd'hui, en 100 ans après Octobre 17?
Bah, il nous apprend ce que c'est que la lutte de classe et la force du peuple à partir du moment où il acquiert un espace et une temporalité pour s'organiser et pour débattre et réfléchir. Donc ça reste un film important parce qu'en plus ça redonne de l'enthousiasme. Et puis c'est un film qui n'est pas simpliste parce qu'il analyse vraiment à chaque étape de la révolution. Il nous donne les outils pour comprendre les enjeux et pour montrer la complexité des choses. Pour la première étape, celle autour de Kerensky, par exemple, on voit bien comment au départ il y a les espérances, puis ensuite il n'y a pas de pain et il n'y a pas la paix, et à partir de là on démonte un peu, puis à l'étape suivante on remonte une autre étape de la contradiction et on montre comment le débat il se mène à la fois sur le terrain et la lutte armée, et il se mène au niveau idéologique, au niveau du débat à l'intérieur des forces politiques, quoi. Voilà.
Et ça, aujourd'hui, ça nous fait du bien quand même.
Ah bah oui, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des films comme ça et qu'on ait l'occasion d'en voir des comme ça. Et je pense, par exemple, en ce moment, il y a le film de Raoul Peck sur le jeune Marx qui est intéressant parce que c'est courageux de faire un film comme ça dans le contexte actuel. Et en plus, ça éclaire une partie du parcours de Marx qu'on connaît moins. Et dans cette partie, le débat d'idées, il est important aussi. On voit comment une pensée se construit. Donc c'est bien.
On l'a présenté à la radio, hein, et effectivement, le fait d'avoir deux jeunes comme ça, Marx et Engels, hein, entre 25 et 30 ans, qui ont finalement impulsé une sacrée vision du monde.
Ouais, oui, tout à fait. C'est en ce sens que le film est important, parce qu'il redonne de l'espérance et il redonne la pêche dans un contexte qui est quand même assez difficile. Quoi. Voilà. Mais bon, j'espérais qu'il y en aura d'autres.
Nous sommes toujours dans notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Nous nous intéressons maintenant à une soirée qui s'est tenue au LAG à l'initiative des objectrices et objecteurs de croissance du Pas-de-Calais qui avait invité Christian Lauru autour de son livre « Vers la démocratie directe ». Nous allons successivement écouter Christian Lauru ainsi qu'une participante et un participant à cette soirée très animée et très riche.
Donc je suis avec Christian Lauru qui a écrit un livre qui s'appelle « Vers la démocratie directe ». Alors Christian, est-ce que tu as écrit ce livre tout seul ou est-ce que c'est une réflexion collective qui a permis d'aboutir à ce livre ?
J'ai écrit ce livre tout seul, mais il est dans le prolongement des travaux du mouvement Démocratie directe et résilience que j'anime, et il fait suite à notre réflexion entre 2014 et 2016 sur les institutions politiques françaises. Mais encore une fois, nos travaux peuvent déboucher sur des applications dans d'autres pays que la France.
Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce mouvement démocratie directe et résilience, notamment la notion de résilience qui est assez inédite?
Oui. Alors, nous sommes réunis, regroupés à partir de début 2014 sur un projet d'étude des institutions. On a passé 6 mois. Alors, on s'était donné un plan de travail sur 2 ans. Au rythme d'une réunion par semaine, que nous avons alternée entre réunion physique à Paris et réunion Skype. Nous avions un plan d'études qui a consisté pendant 6 mois à étudier la Constitution et les principaux codes juridiques, les décortiquer, débattre avec des participants qui n'étaient pas toujours les mêmes, mais donc le groupe pouvait être évolutif. Ensuite, nous sommes passés à une phase de réflexion, réécriture, avec l'objectif d'aller vers une démocratie plus importante. Alors on s'est aperçu justement, et on a abordé le problème justement pendant le débat, on s'est aperçu que la démocratie n'était pas à géométrie variable, et que chaque fois qu'on voulait l'augmenter, c'est qu'on ajoutait de la démocratie directe. Donc on s'est dit, certainement si on fait que de la démocratie directe, ce sera de la démocratie complète. Et voilà comment on est arrivé à réfléchir aux procédures qui seraient des procédures pouvant être labellisées démocratie directe. Et comme parallèlement, nous avions la plupart des personnes qui ont travaillé à cette reconstitution, cette refondation institutionnelle avaient déjà une réflexion sur la décroissance, étaient issues pour la plupart des différents courants de la décroissance, il s'est trouvé que nos analyses sur le déclin de la société industrielle venaient compléter nos analyses défectuologiques sur les institutions actuelles. Et donc, le concept de résilience, pour nous, est une conséquence de la décroissance de la société thermo-industrielle qui va nécessiter d'être géré par une démocratie directe. Cette résilience est donc une posture que nous devons adopter afin de pouvoir optimiser de façon politique les dégâts qui, on peut le craindre, seront à récupérer à partir du déclin des civilisations industrielles.
Est-ce que tu peux redonner la définition très précise que tu as apportée sur la résilience, pour que tout le monde l'ait bien en tête ?
Oui, la définition générique de la résilience, c'est la capacité à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Et notre analyse, nous, c'est que l'altération de la trajectoire humaine depuis 20 siècles, c'est la toute petite période de 150 ans de croissance que nous avons connue, que nous sommes en train de connaître. C'est ça, l'altération. Et retrouver ses propriétés initiales, c'est retrouver une conduite de l'économie conforme aux lois de la physique et de la biologie.
Et alors, est-ce que tu peux apporter votre définition de la démocratie directe ?
Oui. Alors, notre définition de démocratie directe, nous disons d'abord que c'est la définition de la démocratie. Qu'en fait, la démocratie directe est un pléonasme nécessaire. C'est un pléonasme pourquoi ? Parce que démocratie directe, le mot direct est déjà dans le mot démocratie, est nécessaire parce que, malheureusement, la démocratie a fait l'objet d'un hold-up sémantique par l'oligocratie qui s'est emparée du mot et qui a créé cette espèce d'avatar qui s'appelle la démocratie représentée. Donc, pléonasme, c'est étymologique, nécessaire, c'est nécessaire de dénoncer cet accaparement par l'oligocratie.
Et alors, l'oligocratie, donc c'est ce pouvoir qui est détenu par un petit nombre, c'est ça ?
Oui, 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 tout à fait. Oligos, en grec, c'est le petit nombre. Kratein, c'est commandé, donc commandé par le petit nombre. L'oligocratie, ça nous semble définir de façon beaucoup plus précise le système sous lequel on vit actuellement, plutôt que démocratie représentative, qui a... pour nous, l'inconvénient d'utiliser un mot démocratie qui, pour nous, veut dire gouvernement par le peuple, exercice du pouvoir par le peuple, c'est-à-dire démocratie directe.
Et alors, ce livre vers la démocratie directe, il s'articule comment ? Il propose quoi ? C'est une stratégie pour réussir à mettre en place cette démocratie en France et ailleurs ?
C'est d'abord la description de ce qu'on propose. C'est articulé en trois parties. Une première partie, les conditions que nous avons appelées les conditions bioéconomiques du changement. C'est-à-dire qu'avant de dire qu'on va changer, on essaye de montrer que les conditions d'un changement, en tout cas, vont être réunies dans un délai assez court. Ce changement qui va donc être nécessaire parce qu'il y a une faillite de la société industrielle, ce changement, nous pensons que la meilleure façon de l'accompagner dans le sens qu'on va l'optimiser, c'est de modifier les procédures institutionnelles et de remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe. Donc, dans une deuxième partie, nous décrivons par le détail les procédures que nous proposons de mettre en place. Et puis, la troisième partie, c'est un peu plus effectivement axé sur la stratégie, c'est-à-dire comment y arriver. Comment y arriver ? Alors, nous avons utilisé le terme de méthodologie critique parce que ce travail, qui est le produit des réflexions du groupe, a été aussi alimenté par de nombreux échanges contradictoires et pas toujours aimables d'ailleurs, mais c'est justement de la contradiction très très radicalisée que sortent les meilleures argumentations. Et donc, les contradictions, les contradicteurs nous ont permis de renforcer nos arguments et notamment de voir quelle pouvait être la meilleure stratégie, en tout cas la stratégie la moins difficile, parce que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, c'est la lutte de David contre Goliath. Mais nous avons une stratégie, en tout cas, qui est une stratégie non pas ni de la rupture violente, ni de l'action de la rue. Hein. C'est une stratégie qui prétend passer par le biais de la légalité actuelle telle qu'elle est définie dans la Constitution de 58.
Merci pour cette synthèse. Une dernière question par rapport au débat qui a eu lieu ce soir au LAG. Est-ce que tu fais beaucoup de débats et qu'est-ce que tu penses que ça apporte de porter ce livre dans des lieux où on en débat et de pouvoir présenter l'accompagner de la sorte dans des espaces où ça débat collectivement?
Bah, je suis là en service commandé puisque c'est maintenant la stratégie du mouvement après avoir uniquement réfléchi, avoir construit pendant 2 ans et demi de travail intensif. Nous avons maintenant un outil qui n'est pas, encore une fois, j'ai entendu certains contradicteurs dire qu'on avait un outil tout prêt, qu'on allait imposer. Non, c'est un outil qui est ouvert à la modification, à l'amélioration, mais maintenant qu'il est fait, que le travail de réflexion est fait, on a décidé de porter, de prendre notre bâton de pèlerin et puis de porter notre parole un petit peu partout. Donc, ces conférences qu'on organise, où là, par exemple, on a été sollicité, c'est formidable d'ailleurs, de ne pas avoir à démarcher, mais d'être directement sollicité, font partie de la petite viralité, la petite dissémination de notre projet. Plus on regroupera de contradicteurs déjà. Un contradicteur, c'est déjà quelqu'un qui réfléchit, parce que ça veut dire qu'il est venu et qu'il a envie de contredire, qui a réfléchi déjà à ce qu'on propose, et même s'il y a des avis contraires, pour nous, c'est déjà une progression.
Et alors, qui a édité le livre? Où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors, je me suis fait gronder tout à l'heure parce que j'ai dit que le livre n'était en vente que sur Amazon. Et c'est pas du tout parce que nous sommes des suppôts d'Amazon ou des zélateurs inconditionnels d'Amazon, mais tout simplement parce que Amazon vient de sortir quelque chose que personnellement je considère comme une révolution dans l'édition de livres. C'est une technique qui permet de sortir un livre à l'unité. Donc, et de le modifier à tout moment. Ça veut dire que j'envoie mon manuscrit à Amazon et que celui qui va commander un livre va pouvoir l'avoir immédiatement. Donc, il y a une machine, je ne sais pas comment est cette machine, mais il y a une machine qui fabrique simplement un livre s'il y a une seule commande, ou 2 livres s'il y a 2 commandes. Et contrairement à mes livres précédents, puisque j'en suis à mon 7e livre, je n'ai pas, et je suis toujours passé par l'auto-édition, je ne suis pas obligé d'investir 100 ou 200 livres chez un imprimeur et d'ensuite d'essayer de les vendre. Donc là, je n'ai aucun apport financier à faire. Et c'est à chaque fois que l'imprimeur, et donc Amazon en l'espèce, va imprimer le livre. C'est vraiment une révolution et ça permet d'autre part de pouvoir modifier le contenu du livre à tout moment. Alors ça c'est important parce que les gens comme moi écrivent des bouquins qui peuvent être soumis à évoluer dans leur contenu justement au fur et à mesure des confrontations qu'on a avec les différents groupes comme ce soir. Et là, c'est possible de modifier à tout moment le fichier, alors qu'avant, ben, il fallait se contenter, si on avait 200 ou 300 livres d'avance, il fallait attendre de les avoir vendus avant de modifier le contenu.
Première impression, étonnant. Ça fait du bien d'être venu. Les débats, les échanges ont été vifs. Il n'y a pas forcément eu d'accord, mais chacun a trouvé sa place, chacun a pu s'exprimer. Et puis je vais repartir, je pense, avec l'idée, en, peut-être encore un petit peu plus, que l'intelligence collective, c'est vraiment un truc chouette, et quand on fait ensemble, c'est vraiment bien.
Didier, est-ce que tu peux me dire, avec quoi tu repars à l'issue de ce débat ?
En premier, parce qu'on faisait partie de ceux qui l'ont organisé, un sentiment de satisfaction parce qu'on était nombreux dans la salle. Et donc un sentiment de satisfaction parce que les gens ont beaucoup posé de questions, sont beaucoup intervenus et ont mené un débat qui m'a semblé moins intéressant. Voilà. Après, avec un petit sentiment de frustration, parce que sur ce genre de débat, on n'est jamais sûr du résultat obtenu. Là, c'est vrai qu'on a eu des interventions parfois un peu musclées ou très réactives de la part de copains qui n'ont pas nécessairement nourri le débat et qui voilà, donc ça me laisse un peu un sentiment de frustration. Maintenant, ça me donne envie de lire le bouquin de Christian, ça c'est sûr, pour voir un peu tout ce qu'on n'a pas pu entendre ce soir dans le débat.
Et alors, parmi les choses que tu as pu entendre, toi Didier, sur la démocratie directe, est-ce que ça t'a fait évoluer sur ta propre représentation de la démocratie, ou est-ce qu'il y a une question là que tu te dis ah, j'ai envie de la creuser, j'y avais pas pensé avant
Alors il y a une question que j'ai envie de creuser, même si je me l'étais déjà posée un peu, c'est celle de comment on va amener les gens à passer au-dessus de ce qu'ont très bien mis en avant certains intervenants dans le débat ce soir, c'est-à-dire toutes ces différences culturelles, idéologiques, et qui font que les gens ne sont pas égaux quand ils sont dans un débat. Et ils seront encore moins égaux quand ils seront dans une agora pour proposer des lois. Et donc, comment on peut faire, nous, qui sommes engagés dans ces démarches-là, pour arriver à ce que les gens aient suffisamment d'aisance ou aient moins peur. Enfin, je ne sais pas comment on peut formuler ça. Enfin, moi, je vois bien ce que je veux derrière. C'est-à-dire, comment on peut arriver à casser ces inégalités qui sont culturelles et qui sont énormes. Enfin, moi, je l'ai vécu, mes parents avaient ça. Ils avaient une trouille bleue de s'exprimer quand il y avait quelqu'un, parce que, voilà, ils étaient ouvriers. Et il faut arriver à péter tout ça, parce que sinon, la démocratie directe, à mon avis, ça restera jamais qu'une idée, quoi, et pas une réalité. Or, à mon avis, il faut que ça soit une réalité si on veut avancer.
Mais tu veux dire le fait que pour qu'il y ait un débat auquel tout le monde puisse participer, il faut que chacun ne soit pas entravé par des stéréotypes ou des discriminations ou des idées pour discuter. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est des stéréotypes, souvent, effectivement. C'est des discriminations aussi, parce que ça, c'est vrai, c'est clair. Mais c'est surtout des discriminations que les gens intériorisent eux-mêmes. Enfin, moi, je vois là où je travaille, j'entends tout le temps les élèves dire « Ah ben ça, c'est pas pour nous. » Voilà. Ils ont le sentiment que ça, c'est pas pour eux. La culture, c'est pas pour eux. S'exprimer, c'est pas pour eux. Parler dans un micro, c'est pas pour eux. Alors qu'ils sont pas différents des autres. Voilà. Donc c'est vraiment, à mon avis, la question centrale, c'est celle-là, à côté de toutes les questions qu'ont posé les copains sur est-ce que c'est compatible avec ceci ou cela. Bon, moi vraiment, ce qui me marque le plus, c'est ça. C'est comment on peut casser ce que Bourdieu appelait tous les freins sociaux et culturels. Enfin, chacun arrive avec ses blocages culturels. Il faut arriver à les enlever.
Eh bien, ce micro-rebelle hebdo se termine à la fois sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9. Nous terminons par de la musique libre, comme toujours sur Micro-Rebelle. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Ils ont versé des larmes sur nos mains, quand nos poings auraient dû se fermer, quand nous n'étions pas. Ils ont versé des larmes sur nos rêves et nos frissons, sur leurs fantasmes et leurs mensonges. Ils ont déversé leurs coups de pompe, leurs bêtises absurdes remplies d'un peut-être quand nous, nous n'en rêvions plus.
Ils ont menacé nos mères, nos frères, de ne plus jamais voir les lumières, de ne plus jamais avoir le choix. Mais je n'ai pas peur, et toi non plus. Je n'ai pas peur, et toi non plus. Ils ont versé des larmes sur nos mains quand nos poings auraient dû se fermer. Et nous, absents une fois de plus, quand seuls ils pensent être tous, quand seuls ils pensent être nous et que nous n'existent plus. Et depuis si longtemps, ils ont enfoncé les portes, ils ont menacé les faibles et les forts de ne plus jamais avoir le choix. Mais notre rage n'est jamais qu'endormi, quand notre bruit réveillera les morts. Notre rage baisera leur nuit. Notre rage baisera leur nuit. Je n'ai pas peur, et toi non plus. Je n'ai pas peur, non. Et toi non plus. Aveuglément, croire l'insulte, celui qui hurle, celui qui ne sait faire qu'hurler plus fort que les autres. Alors on l'entend, alors on l'écoute, dans l'ombre d'un doute. Penser que le monde entier est contre nous, le penser, finalement ne pas avoir tort. Le penser parce que ne plus exister depuis si longtemps, parce que les classes sont devenues des races. Et aujourd'hui on se bat pour des peut-être, alors
Alors on accepte les miroirs que l'on nous demande de haïr. On accepte le feu, on accepte le soufre. Dans l'ombre d'un doute, et dans l'ombre d'un doute, se convaincre que notre histoire n'existe pas, que nos héros n'existent pas, que nous n'avons aucune raison d'être fiers d'être, et qu'ils seront à jamais les seuls à avoir. Dans l'ombre d'un doute. Dans l'ombre d'un doute.
Se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.